Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Édouard Rosset.
Bonjour à toutes et à tous. À l'heure de la construction européenne qui se poursuit, difficilement mais sûrement, Canal Académie essaie de vous donner les clés pour comprendre les grands enjeux de l'Europe de demain. Arrêtons-nous aujourd'hui, si vous le voulez bien, sur un des domaines d'avenir et pour cause, c'est celui de la recherche. Quelle recherche pour la France et l'Europe de demain? Quelle place le vieux continent peut-il et doit-il occuper dans ce domaine face aux autres grands pays de la planète? Une Europe de la recherche, mais à quel coût et avec quels moyens? Je vous propose d'aborder toutes ces questions avec les deux invités de Regards Croisés aujourd'hui, tous deux secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, Madame Nicole Ledouarin et Monsieur Jean Dercourt. Bonjour Madame, bonjour Monsieur.
Bonjour. Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints dans les studios de Canal Académie. Alors je peux dire que nous sommes vraiment voisins puisque nos studios, les studios de la première radio académique francophone dans le monde sont situés au palais de l'Institut de France qui est de Conti dans le 6e arrondissement à Paris et que votre académie, donc les sciences, est justement située au même endroit étant une des 5 académies qui composent l'Institut. Alors généralement à la tête de ces nobles compagnies, il y a un seul secrétaire perpétuel, exception pour les sciences. Pourquoi? Peut-être honneur aux dames, Madame Ledouarin.
Je pense que c'est une règle qui a été instituée par le passé et qui est parfaitement justifiée par la diversité des sciences. Il y a les sciences qui sont très conceptuelles, comme les mathématiques, et des sciences expérimentales, dites sciences de la matière. Et parmi celles-ci, il y a les sciences de la terre, il y a les sciences de la vie, il y a la chimie. Pour couvrir l'ensemble de ces disciplines qui sont extrêmement variées, et il est bon qu'il y ait deux personnes qui aient des compétences complémentaires. Je pense que c'est ce qui a été à l'origine de cette institution.
Alors, c'est
de
un travail perpétuel. Un travail d'équipe, effectivement, travail complémentaire, on se répartit les tâches, Monsieur Dercourt.
Voilà, moi, je voudrais que l'on se rappelle que cet Institut de France a été créé pendant la période révolutionnaire, issue du siècle des Lumières, qui a sorti le savoir, les sciences, comme étant les moteurs du progrès. Et ceci a beaucoup animé les conventionnels, puis les hommes et les femmes du directoire, et il était évident à lire leurs textes que le poids des sciences dans la formation de la société française et de l'Empire, puisque rapidement il s'est agi de ça, était prioritaire. Et c'était les sciences de l'époque. Elles ont varié. Nous avons parmi nos membres compté un homme qui a donné beaucoup de gages dans la suite, puisqu'il s'appelait le général Bonaparte. Mmh. Il était venu là en tant que topographe, il connaissait bien ces questions, mais surtout, il montrait l'intérêt. Et puis, il y a eu la campagne d'Égypte, etc., etc. Donc, tout ça a fait que, au sein de l'Institut de France, il y a eu 5 secrétaires perpétuels, dont 2 dans les disciplines, comme Nicole Ledouarin vient de le dire, en donnant les disciplines d'aujourd'hui. Et puis, il y en a eu 1 pour les sciences, l'autre pour les arts, le troisième était pour l'économie politique, pour les sciences de la réflexion, de la société, mais bien vite, cette académie a sombré, elle a émis des avis très défavorables à l'empereur, et il n'est resté que 4 académies, ce que, bien vite, un autre roi a réparé en 1832. Nous sommes devenus 5 académies et nous y sommes maintenant, et il y a toujours ce nombre de secrétaires perpétuels.
Alors ça, c'est pour l'histoire, mais que représente aujourd'hui l'Académie des sciences? Combien d'académiciens, par exemple, son rôle? Quel est son quotidien, finalement, Madame Ledouarin?
Écoutez, l'Académie des sciences, depuis une période assez récente, a été l'objet de 2 réformes consécutives qui ont changé beaucoup son mode de fonctionnement et surtout sa représentativité vis-à-vis de la communauté scientifique nationale. La première réforme a eu lieu en 1975, à l'époque où M. Giscard d'Estaing était président de la République. Et elle stipulait cette réforme qu'il était important que le nombre des membres soit augmenté. Il était d'une cinquantaine de membres, comme c'est le cas des autres académies.
Encore aujourd'hui ?
Encore aujourd'hui pour les autres académies. Il a été porté à ce moment-là à 110 membres. Et ce qu'avait recommandé le président de la République de l'époque, c'est qu'il y ait un rajeunissement des cadres, un rajeunissement des membres, et qu'il y ait aussi une introduction des femmes. Je m'en souviens très bien. C'était tout à fait révolutionnaire à l'époque. Ceci a été suivi quelque temps après par l'élection de la première femme à l'Académie des sciences, qui est une physicienne théoricienne, Madame Choquet-Bruard, extrêmement brillante. Elle est restée seule femme pendant un certain temps. Et ensuite, il y a eu une élection de deux biologistes, Madame Grunberg-Manago et moi-même, la même année, en 1982. Ensuite, d'une physicienne, Madame Buchia. Et après, il y a eu un grand espace de temps où il n'y a pas eu de femme élue. Quelle est la situation aujourd'hui ? Ben, tout d'abord, nous avons eu une seconde réforme qui a encore augmenté le nombre des membres, mais ceci d'une façon vraiment significative, puisque nous sommes passés de 110 ou 120 membres à 250, hein, c'est ça. Et nous avons aussi une nouvelle règle qui est que les personnes que nous recrutons doivent être, pour la moitié d'entre elles, âgées de moins de 55 ans, le 1er janvier de l'année où elles sont élues.
Ce qui est une révolution, quelque part,
c'est
non,
une pour révolution, des académiciens. C'est une révolution, vraiment, c'est une révolution. Alors, ça a eu pour effet, évidemment, d'introduire des gens beaucoup plus jeunes qui sont au milieu de leur carrière. Et par conséquent, ça change quand même beaucoup l'atmosphère et ça ajoute quand même, il faut bien le reconnaître, un dynamisme certain et puis une actualisation aussi des discussions scientifiques qui sont vraiment au cœur de la science telle qu'elle se fait maintenant. Donc nous pouvons nous réjouir énormément de cette deuxième réforme. Alors, est-ce que cette deuxième réforme a concouru à la parité homme-femme ? Eh bien, d'une manière extrêmement faible pour le moment. Voici quels sont les chiffres. En 2004, il y avait 9 femmes sur 191 membres, ce qui fait 4,7%. Et en 2005, nous avons eu quand même un afflux, on pourrait dire, de femmes. Nous sommes 14 femmes sur 215 membres, ce qui représente 6,5%. Alors, je peux vous donner quelques chiffres qui correspondent à d'autres grandes académies du monde.
À titre de comparaison, à titre comparatif, c'est intéressant, rapidement, oui.
Alors, la National Academy of Sciences des États-Unis, en 2004, avait 171 femmes, mais sur 1877 membres, ce qui fait 9,1%. Par conséquent, nous sommes à peu près à égalité du point de vue de la parité, ou de ce qu'on pourrait considérer comme la non-parité. La Royal Society a 53 femmes sur 1244 membres, ce qui est particulièrement faible comme taux, puisque ça fait 4,3%. Et la Royal Society de Suède, qui est l'Académie des sciences de Suède, a 7,7% de femmes, 27 femmes sur 352 membres.
Donc la non-parité n'est pas un cas uniquement français, on l'aura non, bien compris
Nous sommes en train de progresser.
Jean Dercourt, justement, l'Académie des sciences va encore accueillir de nouveaux membres prochainement. Ce sera le 14 juin, précisément, sous la coupole. La consécration pour combien d'impétrants, cette fois-ci ?
Ce sera pour 24, et nous finirons ainsi 4 années au terme desquelles nous avons recruté 100 membres nouveaux. Et ces 100 membres nouveaux, comme Mme Ledouarin vient de le dire, étaient recrutés pour moitié d'entre eux avant 55 ans, et pour l'autre moitié, achèvera de pouvoir être participant au recrutement des autres à 75 ans. Ces deux dates limites ont tout à fait modifié l'allure de l'Académie. Avec cette promotion, celle qui va suivre l'année prochaine, nous aurons atteint le chiffre de 100 nouveaux membres. Et cela a une importance, mais des risques. Tout n'est pas toujours splendide. L'important, c'est tout le rajeunissement des thèmes. C'est de pouvoir compter sur eux dans
le... Fini de façon à regrouper le mieux possible les différentes recherches qui se font dans le pays. Mais nous avons aussi une intersection qui recouvre un petit peu l'ensemble des sections et qui est appelée intersection des applications de la science. Et ceci nous permet de faire un lien direct entre des recherches fondamentales et leurs applications immédiates et leurs applications dans le futur et passé.
C'est toute la jeunesse de l'Académie des sciences et aussi son actualité, une académie au cœur de l'actualité de la recherche. Alors nous allons parler de la réforme possible encore plus en avant pour l'Académie des sciences. Peut-être auparavant, élargissons notre photo. Quel est le rayonnement, Madame Le Doirin, de l'Académie des sciences aujourd'hui en Europe et dans le monde ?
De l'Académie des sciences française ?
Oui.
Ben, tout d'abord, l'Académie des sciences bénéficie d'un grand prestige. J'en suis convaincue et j'en ai des preuves, nous en avons des preuves fréquentes. Un prestige dans le pays, dans notre pays, mais aussi un prestige à l'extérieur. Il y a eu des très grands scientifiques, le nom de très grands savants est attaché à l'histoire de l'Académie. Et nous avons eu à cœur, justement, en faisant ces réformes, que les grands savants actuels en fassent partie. Ce qui n'aurait pas été bon pour l'Académie et ce qui lui aurait enlevé sa justification est que des gens de très grands talents n'en fassent pas partie. Et des gens qui ont eu des très grandes réalisations. En somme, il faut que tous ceux qui sont bons y soient, même ceux, si, bien sûr, rien n'est imparfait, tous ceux qui y sont ne sont pas nécessairement des très grands savants. Il y a évidemment
tout toujours, est représenté, tout le monde est
mais
représenté.
Mais au moins que tous les grands et tous les très bons y soient. Alors ça, c'est ce que nous avons cherché. C'est ce que cherchent aussi les autres académies des très grands pays, vous savez.
Il s'est construit à la date où nous nous réunissons aujourd'hui. Nous avons la crainte que ce mouvement s'atténue, s'affaiblisse, s'affadisse. Il était nécessaire que l'Europe puisse être le mouvement associant pour constituer. Le restera-t-elle ? Aura-t-elle la confiance ? Le pourcentage de crédit alloué par les États restera-t-il 1% ou grandira-t-il pour que l'objectif de Lisbonne de faire de l'Europe un partenaire grandissant par la recherche et l'innovation, ça nous ne le savons pas.
C'est un cri d'alarme que vous lancez.
C'est un cri d'alarme, c'est l'inquiétude au milieu du guet. Est-ce que nous n'avons pas récemment décidé de quitter un bateau qui allait trop vite ? Et pour les chercheurs, pour la recherche, c'est en effet ou de la recherche internationale, une troisième fois je vous le redis, ou de la recherche européenne, sinon là où les choses vont le mieux, iront les chercheurs les meilleurs. Et ils iront les meilleurs parce que le marché de l'emploi y sera développé et parce que les moyens leur seront offerts. La recherche européenne naît, elle croit, va-t-elle le faire encore ? Des innovations sont risquées. Un conseil européen de la recherche est en gésine. Est-ce qu'il aura lieu ? Est-ce que ce seront bien des programmes associant les différents pays d'Europe pour améliorer la perception d'une Europe scientifique, ou seront simplement des suppléments de crédit donnés à tel pays ou à tel autre et revenir à, vous vous souvenez, my money back. Et est-ce que la science, qui était partie pour être beaucoup plus large, vivra avec cette idée my money back pour chaque nation? Ce serait une catastrophe et un éteignoir sur la recherche scientifique européenne.
Nous allons marquer une nouvelle pause avant de poursuivre cette conversation très intéressante. Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, dans l'émission Regards croisés, accueille aujourd'hui Madame Nicole Ledouarin et Monsieur Jean Dercourt, tous deux secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences françaises. À tout de suite.
Les avancées dans la recherche médicale et les espoirs thérapeutiques de demain, Canal Académie vous propose une douzaine d'émissions sur ce thème. Quand l'imagerie médicale permet de lutter contre le cancer, quand la technique satellitaire peut servir à guérir en Afrique, quand la chirurgie appose une greffe sur un visage, mais aussi quand les médecins et les philosophes s'interrogent sur le clonage thérapeutique et la bioéthique. Soyez à la pointe des dernières découvertes et avancées médicales grâce au travail de diffusion du savoir par l'Académie des sciences.
Canal Académie parle de la science dans Regards croisés, votre émission. Votre émission Regards croisés accueille aujourd'hui Madame Nicole Ledouarin, Monsieur Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, située donc au palais de l'Institut de France, quai de Conti à Paris, où sont également installés les studios de Canal Académie. Madame Ledouarin, n'y a-t-il pas un paradoxe dans ce que expliquait il y a quelques instants Monsieur Dercourt, à savoir que la prise de conscience visiblement n'est pas encore là, enfin, il y a un manque évident, pas tant de volonté politique en matière de financement et de développement de la recherche en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans le fait que cette recherche, cette innovation, ce sont les gisements d'emploi de demain et peut-être pas si loin que ça, c'est un problème à court terme?
Tout à fait. Il est très, très curieux de constater le désintérêt des politiques vis-à-vis de la recherche et vis-à-vis des perspectives économiques que la recherche offre. Nous avons pourtant des exemples extraordinaires. Le développement de l'informatique a été à l'origine de richesses considérables et qui ont profité particulièrement aux États-Unis et à d'autres pays aussi, asiatiques en particulier. Du moins, ils sont sur le chemin de se développer considérablement dans ce domaine. Alors, si l'Europe ne réagit pas d'une manière extrêmement rapide et extrêmement énergique, eh bien, nous verrons le progrès venir ou bien des États-Unis, comme cela a déjà eu lieu, mais aussi de l'Asie. Mais aussi de la Chine, de la Corée, par exemple, qui avance énormément dans les biotechnologies, comme nous l'avons vu récemment.
L'Inde
aussi. Et de
aussi.
L'Inde, en particulier.
Grosse épée
alors,
de Damoclès.
C'est tout à fait curieux de voir ça, et de voir le peu de réaction vis-à-vis. Il a fallu que les chercheurs se trouvent dans la rue et protestent vraiment pour que l'opinion publique et aussi les hommes politiques se rendent compte qu'il y avait un véritable problème et que la recherche française était, sinon en déclin, mais du moins sur la bonne voie pour devenir, pour décroître en importance.
Alors ça, c'est le constat, mais il y a aussi les solutions, peut-être proactives, c'est ce que veut faire l'Académie des sciences française. Vous travaillez à cette réforme, tous les deux. Concrètement, s'il y avait une mesure à prendre demain pour développer la science, pour renforcer, Madame Ledouarin, ce que vous expliquez tout de suite.
Écoutez, d'abord, de toute
la
façon...
La mesure que vous prendriez-vous, laquelle serait-elle?
De toute façon, il ne faut quand même pas se leurrer. C'est vrai qu'il y a des réformes de structure à faire pour la recherche, pour les chercheurs. Mais il y a surtout un problème de fonds, un problème de crédit, un problème d'argent. Il ne faut pas se leurrer. Les jeunes se détournent des carrières scientifiques parce que les carrières scientifiques sont terriblement peu attractives.
Mal payées.
Extrêmement mal payées.
Dotées de peu de moyens.
Dotées de peu de moyens. Nous ne sommes pas compétitifs quand nous avons des jeunes brillants. Nous ne sommes pas compétitifs en France pour leur offrir les moyens de travailler.
Et on ne les retient pas.
Maintenant, ils s'en vont. Alors, ça, c'est très inquiétant. C'est très, très inquiétant. Donc, il faudrait modifier incontestablement les structures qui sont beaucoup trop rigides, qui sont sclérosées, et il faudrait, on l'a dit, mais ça c'est un problème de société en général, il s'agit de savoir si dans un travail, dans un métier à risque comme la recherche, il faut privilégier le confort que fournit une situation à revenu médiocre pendant la vie entière, ou au contraire, une situation où vous pouvez donner vraiment le meilleur de vous-même avec une vie confortable et surtout des moyens pour travailler, tout en ayant le risque, si vous ne réussissez pas, d'être obligé de vous réorienter. Et alors là, je crois que ça, c'est sur ça, c'est un peu darwinien, mais enfin, c'est sur ce type de principe que sont basées toutes les grandes aventures humaines. C'est pas sur la recherche d'une sécurité absolue. Mmh. Là, il y a quelque chose qui ne va plus dans le domaine de ce type de travaux. Et c'est très difficile à faire accepter à la société française telle qu'elle est.
Jean Dercourt.
Oui, nous sommes là au cœur d'un problème majeur. Le cœur de ce problème majeur est qu'il est impossible d'isoler le chercheur dans la nation. Un chercheur, il est à sa place, bien sûr, dans des établissements spécialisés. Il est à sa place. Je garde tout à fait confiance en la science. Je dis qu'il ne nous faut pas nous demander des engagements en disant, comme lorsque nous faisons des réunions publiques, savez-vous tout sur telle question? Nous ne pouvons pas dire nous savons tout. Il n'y a qu'à regarder autour de soi. Quand on entend dire tout va mal, regardez, on n'a jamais eu tant de cancers, tant de maladies variées, tant de malnutrition, tant de difficultés. Chacune de ces affirmations est fausse. Chacune se justifie par autre chose que l'argument qui est donné. Mais nous n'arrivons pas toujours suffisamment à convaincre, et je crois que c'est notre honneur de dire nous pensons et avons les preuves que nous avons le droit de penser cela, mais nous ne savons pas si c'est la seule des interprétations possibles. Et c'est vrai même pour les vérités que l'on croyait éternelles, établies par les grands anciens, je l'évoquais tout à l'heure.
Et en tout cas, on retiendra l'optimisme de Madame Le Doirin en l'occurrence. Nous marquons une toute dernière pause dans cette émission avant de nous retrouver pour conclure. Dernière partie de cette émission Regard croisé consacrée à la recherche et en l'occurrence à l'Académie des sciences française, donc située au palais de l'Institut, l'une des 5 académies de l'Institut de France. Nous en parlons avec les 2 secrétaires perpétuels des sciences, Madame Nicole Le Doirin et Monsieur Jean Dercourt. Nous parlions tout à l'heure justement des moyens pour mener tout cela à bien. Madame Le Doirin, qu'en est-il du mécénat scientifique? Est-ce que l'on peut s'arrêter quelques instants sur ce point? Est-ce que l'une des solutions pour le financement de la recherche passe par ce mécénat?
Écoutez, je le crois de plus en plus. Ça n'était pas dans les habitudes ni dans les principes de la République. L'État devait subvenir à l'enseignement, à l'éducation et aussi à la recherche. Mais l'État est en difficulté permanente. C'est un premier point. les recherches coûtent de plus en plus cher et il est important que des mécènes, parce que nous sommes quand même dans une économie libérale, par conséquent il y a un certain nombre de compagnies ou de personnes privées et qui ont des moyens énormes. Et il y a aussi des gens qui s'intéressent au progrès de la science et qui sont souvent des gens qui n'ont pas énormément de moyens. Mais en se mettant à plusieurs, on arrive à avoir des fondations, des associations, le Téléthon et des choses comme ça qui permettent de lever des fonds pour la recherche qui sont non négligeables, qui sont même très importants. Par exemple, le Téléthon a permis de faire des progrès importants dans les domaines de la génétique, des maladies génétiques. La Fondation pour la recherche médicale, qui est le résultat de dons qui sont quelquefois des dons modestes, mais qui sont nombreux, permet de financer des chercheurs dans le début de leur carrière et aussi d'apporter de l'aide à des laboratoires. Et maintenant, le mécénat qui correspond à des grandes compagnies, eh bien, il n'était pas très important en France, surtout dans le domaine des sciences. Mais maintenant, il le devient, et en particulier à l'Institut de France. L'Institut de France a eu le plaisir de recueillir, a maintenant le privilège d'héberger des fondations qui aident la recherche scientifique et qui sont des fondations importantes au point de vue financier, qui distribuent des fonds. Surtout pour des prix, des grands prix, ce qui augmente le prestige de la recherche et le prestige de la France. Souvent, ces prix sont donnés à des grands savants qui ne sont pas français, mais néanmoins, c'est tout à fait essentiel pour le progrès de la recherche. Alors, je crois que dans d'autres pays, comme par exemple les pays anglo-saxons, le mécénat scientifique joue un rôle très important. En Angleterre, par exemple, la compagnie Wellcome, la grande compagnie pharmaceutique, a fait à côté de la compagnie elle-même une fondation dite le Wellcome Trust qui est à l'origine du financement de plusieurs laboratoires, de très grands laboratoires, c'est-à-dire qu'ils construisent les murs, ils payent toutes les dépenses de fonctionnement et ils payent tous les chercheurs et les professeurs. Le fonds du Wellcome Trust en Angleterre est équivalent, peut-être supérieur, je ne sais pas, au fonds du National Research Council. C'est très, très, très impressionnant.
Et on en est loin, nous, en France. Quand même.
Alors, aux États-Unis, c'était énorme. Mais il y a aussi des fonds publics qui sont très importants, mais il y a des fonds privés qui sont extrêmement importants. Alors, en France, on en est loin.
Mais l'Institut fait beaucoup.
L'Institut est en train de jouer un rôle très, très important dans ce domaine-là. Et j'en suis très heureuse et très fière, je dois dire.
Jean Dercourt.
Oui. Nous nous trouvons devant des types de sociétés différentes. La recherche est régalienne dans la psychologie française et je dois dire latine. Elle est très liée à ceux qui en tirent profit dans les pays anglo-saxons. Et dans ces pays, les lois n'ont pas la même décision sur les utilisations des revenus des sociétés et des personnes. Et les crédits libérés qui sont disponibles sont beaucoup plus importants. Et en effet, que serait la recherche dans beaucoup de pays, même européens, s'il n'y avait le mécénat ? Une loi nouvelle vient d'être produite. Cette loi apporte des possibilités de dérogation à un certain nombre de taxes et permet donc à des sociétés, à des fortunes privées, de dédier une partie de leurs fonds à des institutions. Alors, à côté de cet formidable élan populaire que Madame Ledouarin rappelait, qui est des fondations individuelles, le Téléthon en est l'exemple, mais les quêtes publiques sur la voie publique, etc., sont fréquentes, est en train de commencer à se développer. Et il faut dire que, à côté des prix évoqués, c'est surtout des subventions qui sont apportées à des chercheurs pour eux et leur laboratoire. C'est aussi des attributions de bourses postdoctorales pour mettre le pied à l'étrier à un certain nombre de jeunes. L'Institut de France, sous la houlette de Pierre Messmer, est en train de commencer ce chemin-là. C'est très difficile à inventer le chemin. Il faut être sûr qu'il y a une juste répartition, juste voulant dire une répartition fondée sur l'excellence.